Dobriden, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute des émissions en langue française de Radio Prague. Comme chaque semaine ou comme chaque samedi, vous le savez, trois rubriques figurent au programme de la prochaine demi-heure. Il sera donc question de culture et de littérature. Et puis, comme tous les 15 jours, une place sera également réservée à votre courrier. Mais on commence donc avec la culture et de la musique, et même de la très belle musique. Gaëlle Méchali est une cantatrice d'opéra qui collabore avec les plus grands théâtres lyriques et festivals européens. Dans son répertoire figurent des opéras de maîtres baroques, parmi lesquels Rameau, Charpentier, Purcell, Clérambault et des œuvres de compositeurs moderne. Actuellement, Gaëlle Méchali est en train d'étudier le rôle-titre de l'opéra « La petite renarde rusée » de Leoš Janáček, qu'elle chantera dans une production indépendante du metteur en scène Stéphane Grögler, son mari, et du plasticien Arne Quinz. Le metteur en scène et le scénographe situeront l'action scénique et le public dans une sculpture moderne géante. Gaëlle Méchali se réjouit de pouvoir participer à cette production novatrice qui lui permet d'assouvir son goût pour l'expérience. Le rôle de la petite renarde lui ouvre les portes de l'univers de la musique tchèque, une musique qu'elle ne connaissait que très superficiellement et qui l'enchante. Gaëlle Méchali a évoqué tout cela et bien plus encore au micro de Vasa Vrikta.
Culture sans frontières.
Est-ce que c'est votre premier rôle dans un opéra de Janáček?
Oui, c'est mon premier rôle et je suis très excitée à cette idée.
Est-ce que c'est un rôle difficile? Un rôle difficile au niveau vocal, par exemple?
Alors, la première difficulté, c'est surtout la langue, quand on n'a aucune notion de tchèque. Donc, la première difficulté, c'est appréhender la langue, c'est appréhender la lecture, c'est connaître la phonétique, etc. Donc, c'est un travail qui est un petit peu, comment dire, au départ, c'est un travail qui demande beaucoup de concentration et une grande ouverture d'oreille pour capter toutes les difficultés de cette langue. Après, à partir du moment où on sait lire le tchèque. Après, il y a un travail de mise en bouche. Il y a effectivement, au niveau technique, une forme à trouver de manière à ne pas trop stresser au niveau du texte, parce qu'il est difficile, quand on ne connaît pas, on ne maîtrise pas bien une langue, d'être souple en bouche. Et pour chanter avec un joli legato, c'est vrai qu'il faut trouver une certaine souplesse. Est-ce que c'est difficile par rapport à notre opéra? Non. La musique de Janáček est, je trouve, très bien construite. Et si on arrive à entendre les motifs musicaux qu'il nous donne avant chaque phrase musicale, en fait, on est toujours plus ou moins en écho. Il nous place toujours dans une atmosphère musicale qui nous permet de reproduire plus ou moins musicalement ce qu'il a donné instrumentalement, vocalement. Donc après, c'est quelque chose, un concept qu'il faut intégrer. Et je trouve qu'après, c'est très agréable de le chanter. C'est vrai que ça demande un fort investissement au départ, un grand travail. Mais après, je pense qu'on trouve une certaine aisance à le chanter. Et moi, je viens de terminer ce travail d'apprentissage. Donc, je ne suis pas encore dans cette période de trouver cette aisance pour chanter le rôle. Mais je suis sûre que ça va. Je vais me plaire à chanter en tchèque.
Avez-vous déjà joué le rôle d'un animal? Est-ce que cela vous amuse?
Cette année, je vais chanter l'enfant. Elle est sortilège à l'Opéra Garnier. Je chanterai l'enfant. Mais il m'est arrivé effectivement à la Fenice de Venise d'être invitée à chanter la chouette, justement dans l'enfant. Entre autres, j'avais différents rôles, mais j'avais aussi le rôle de la chouette. C'était la seule fois, bien évidemment, où j'ai chanté le rôle d'un animal. Mais ça m'excite beaucoup. C'est un animal qui a vraiment un cycle de vie comme presque un humain. Donc, les sentiments, ou en tous les cas, la façon d'appréhender chaque émotion et chaque différentes étapes de sa vie sont assez humaines, entre guillemets.
Est-ce que donc votre renarde est plutôt un animal ou plutôt une femme?
Alors, pour l'instant, moi, je ne dépendrai de la façon dont verra ce personnage, évidemment, le metteur en scène. Par contre, ce que je peux dire émotionnellement par rapport à la musique, par rapport par exemple, à ce sublime duo d'amour, d'amour, oui, entre le renard et la renarde, c'est l'exaltation des sentiments musicalement, on peut pas dire autrement. Et cette exaltation là, on peut le comparer à un sentiment d'amour, de passion, de humain. Donc obligatoirement, si je me fie à ce que j'écoute musicalement, ce sont de grands élans sentimentaux quand même. Et je suis obligée de les accrocher à ce que je vis humainement, bien évidemment. Maintenant, après, si on me demande d'être moins lyrique dans ma façon d'être, parce que plus animal, bien je le ferai. Mais de ma façon d'appréhender la musique, déjà, je pense qu'il y a des formules musicales qui me font penser à de grands sentiments d'exaltation, de passion. Voilà, en tous les cas, dans ce duo-là, magnifique. Par contre, quand elle va et qu'elle mange les poules, ou en tous les cas qu'elle les égorge, effectivement, ça, c'est de l'animal.
Êtes-vous d'accord avec la conception du metteur en scène ?
Alors moi, je suis complètement partante et complètement enthousiaste à l'idée de cette sculpture gigantesque, d'abord aussi cette façon d'appréhender le public différemment, de le vivre avec soi, puisque en fait, on jouera sur cette sculpture, mais le public sera à l'intérieur aussi de la sculpture. Donc il y aura une proximité avec le public qui sera formidable, c'est-à-dire on pourra sentir chacune de ses émotions. L'idée d'être un peu sportive, à la fois j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec Stéphane et je ne m'inquiète pas, c'est vrai que c'est parce qu'on va avoir 2 mois de répétition. En 2 mois de répétition, on a le temps d'intégrer la sculpture, d'intégrer la musique, d'intégrer tout ce qu'on va nous demander. Donc je ne m'inquiète pas et par contre, non, je trouve ça une expérience très, très excitante, d'ores et déjà. Plus la difficulté aussi, je pense, de l'acoustique, travailler sur cette idée d'acoustique, ce qu'en tant que chanteuse d'opéra, je n'ai jamais eu l'occasion de faire, puisque en général, on ne chante pas sonorisé, on chante évidemment dans des salles qui projettent l'acoustique naturellement. Donc là aussi, il y aura tout un travail nouveau pour moi qui me tente beaucoup. Et donc, je suis vraiment contente de faire cette première expérience avec.
Avez-vous trouvé à Marseille des interprètes qui vous inspirent, qui vous permettent mieux saisir le rôle, par exemple ?
Alors, moi, je suis marseillaise. C'est gentil de parler 2 fois de Marseille, mais Stéphane n'est pas du tout de cette région de la France qui est dans le sud. Et tout le projet a été conçu du côté de Paris, donc, et plutôt à l'international. Mais j'ai eu l'occasion, et ça, c'est formidable, c'est qu'à Marseille, il y a une institution qui s'appelle le CNIPAL, pour être très technique, et qui permet à des chanteurs professionnels de venir apprendre des rôles. Pendant une semaine, on vous donne l'occasion d'être avec un chef d'orchestre, avec un professeur de tchèque, avec un pianiste. Et en une semaine, voire 15 jours si vous le voulez, à raison de 20 heures par semaine, ce qui est assez énorme, vous pouvez venir en ayant fait déjà une grosse préparation, parce que pour la petite renarde, c'est pas en une semaine qu'on apprend le rôle. Eh bien, vous testez avec la pianiste, approfondir les choses avec le professeur de tchèque, et puis voir un chef d'orchestre qui va vous donner toutes les... Donc, c'est vrai qu'à Marseille, ce qui a été formidable, c'est que j'ai fait cette préparation, que j'ai rencontré un formidable professeur de tchèque qui s'appelle Radka, et qui m'a donné de formidables conseils pour la prononciation chantée aussi, parce que c'est différent de la prononciation parlée. Et effectivement, à Marseille, j'ai trouvé ces collaborateurs-là. Mais par contre, à Paris, j'ai la chance aussi de travailler avec Irène Koudela, qui est la spécialiste en Europe de tout ce qui est le répertoire tchèque, et qui est l'assistante de grands, grands chefs d'orchestre, dont Boulez, et qui a fait beaucoup de productions à travers l'Europe. Elle a fait Katia Kabanova à Paris, au Bouffe du Nord avec. Elle a été appelée à Bruxelles aussi. Elle fait toutes les productions à l'Opéra Bastille aussi, quand il y a la Petite Renarde, c'est elle qui a fait le livret en français et qui fait travailler tous les chanteurs parce qu'elle est à la fois pianiste et à la fois coach de placement vocal en tchèque pour les chanteurs, qui est assez une chose qui est assez spécifique hein, pour les chanteurs d'opéra. Et donc cette dame, qui est formidable, a accepté de me faire travailler sur le rôle, et puis avec elle, je prépare un programme de récital. Si vous voulez, ça a été une telle découverte pour moi, cet opéra, que j'avais envie d'aller plus loin dans mon travail et donc découvrir la musique tchèque. Et du coup, je me suis dit, tiens, Irène est là, programmons un programme de récital avec du Dvorak, du Martinů, du Ullmann, du... Et on termine avec de Jana Hacek. Voilà. Donc je travaille à la fois La Petite Renarde et à la fois un récital pour piano et voix avec Irène Kudela de musique tchèque. Voilà.
Est-ce que ce rôle présente aussi quelques pièges que vous aimeriez éviter ?
Le piège principal, ce serait peut-être au niveau purement technique vocal, d'être trop dans la prononciation et pas assez sur la ligne vocale. Voilà. Je pense que ça, c'est le piège pour des chanteurs étrangers qui veulent rentrer dans une langue aussi complexe que la langue tchèque à prononcer. Donc, je parle vraiment d'un côté technique qui serait d'être un peu trop agressive dans la prononciation, ce qui détruirait la ligne vocale. Et je pense qu'il y a une... Jana Hacek a conçu quand même aussi, effectivement, beaucoup sur la langue parlée, puis c'était quand même un grand spécialiste de la musique et de la langue parlée, et que le mot qu'on dit reproduise les sonorités, les intonations de la langue tchèque, ça c'est très important pour lui. Mais je pense qu'on peut avoir à la fois une très bonne diction et à la fois garder le côté musical et la souplesse de la musicalité dans le chant. Voilà ce qui serait éventuellement le piège.
Qu'est-ce que ce rôle vous a révélé sur vous-même ? Qu'est-ce que ce rôle vous a donné ? Est-ce que, par exemple, le rôle vous a fait découvrir une autre facette de votre talent ?
Oh bah déjà, je ne pensais pas être capable de chanter en tchèque, sincèrement, parce que je pensais que ça allait être une montagne à gravir énorme dans le travail. Et puis, je me suis rendu compte, les professeurs que j'ai eus m'ont dit que j'avais une excellente diction et que j'étais faite pour chanter en tchèque, donc ça m'a beaucoup rassurée. Donc vraiment, ça a été une découverte. Et puis, j'ai découvert, comme je vous dis, en fait, à travers ce rôle, la musique tchèque que je n'avais pas eu l'occasion ni de vraiment les grands compositeurs, les grandes symphonies, j'avais entendu quelques œuvres, mais j'étais pas imprégnée de cette musique. Et en fait je me suis plongée dans ces mélodies et je trouve que c'est une musique d'une passion, d'une douceur à la fois et d'une émotion extrêmement, pour un chanteur, extrêmement plaisante à présenter et puis très attachante. Donc voilà ce qui a été la découverte pour moi, à travers La Petite Renarde aussi.
Voilà, c'était donc la cantatrice d'opéra Gaëlle Méchali qui étudie actuellement le rôle-titre de l'opéra La Petite Renarde Rusée de Leoš Janáček. Gaëlle Méchali répondait aux questions de Václav Rittech. On passe maintenant à une rubrique que vous appréciez tout particulièrement. Une fois toutes les deux semaines, nous avons le plaisir de nous rencontrer, en effet, autour de votre courrier, chers auditeurs. Nous avons donc lu attentivement toutes les lettres et autres rapports d'écoute que nous avons reçus ces derniers jours pour vous en présenter des extraits et pour y ajouter, comme d'habitude, quelques commentaires. C'est Alena Gebertova qui, cette semaine, s'est chargée du tri de votre courrier, le courrier donc de cette dernière quinzaine.
Courrier des auditeurs.
Aujourd'hui, notre rencontre autour de votre courrier se déroule à la mi-temps des fêtes du 1er et du 8 mai, les deux étant en République tchèque, tout comme en France, des jours fériés. Certains d'entre vous ont d'ailleurs évoqué ces dates dans vos lettres, pour rappeler les événements qui y sont liés. Deux de nos auditeurs français ont voulu savoir si la fête du travail était célébrée en Tchéquie encore aujourd'hui, après la chute du régime communiste. Oui, elle l'est, mais les festivités et les manifestations ont un caractère foncièrement différent de ce qu'étaient auparavant les manifestations en masse organisées par les autorités communistes. Convoqués à différents endroits par les partis politiques, surtout ceux de gauche, mais pas seulement, elles sont nettement plus modestes et plus spontanées. Le 1er mai est aussi une occasion en Tchéquie d'organiser toutes sortes de rencontres et de fêtes, dont le seul but est de s'amuser. Passons à la citation d'une première lettre qui nous est parvenue de la part de notre fidèle auditeur et correspondant Paul Jamais.
Je vous signale l'apparition d'un petit livre, Histoire de la radio, ouvrez grand vos oreilles, qui sert de catalogue à une exposition organisée à Paris au Musée des Arts et Techniques du 28 février au 2 septembre 2012. Je précise qu'il s'agit d'une histoire de la radio en France. Les radios internationales en ondes courtes ne sont que peu évoquées en tant que telles, si ce n'est dans un chapitre « La radio, un instrument de guerre ». Radio France, co-organisateur de l'exposition, n'a pas accès aux ondes courtes qui sont réservées à RFI, Radio France Internationale. Néanmoins, j'ai pensé que cette exposition, et surtout ce petit livre de 144 pages richement illustré, pouvait retenir l'attention de tous ceux qui sont passionnés de radio. Je prévois de visiter l'exposition à l'issue de la conférence du 14 juin 2012 sur la guerre des ondes. Il est dit dans la présentation de cette conférence que le 21e siècle semble marquer la fin de la guerre par les ondes au profit de celle des images et plus récemment d'Internet. Mais est-ce si sûr ? Nous en reparlerons.
Merci, cher ami, pour l'information concernant la parution du livre qui semble avoir tout pour attirer les amateurs d'émissions radiophoniques et pour leur faire plaisir. Inutile probablement d'ajouter que c'est avec beaucoup d'intérêt et de curiosité que nous attendrons votre rapport de la conférence que vous mentionnez et qui aura lieu dans quelques semaines et qui portera, selon vos dires, sur la guerre des ondes. Nous adressons un grand merci aussi à notre auditeur Roger Roussel du Canada qui nous a envoyé un rapport d'écoute détaillé et une série de brochures consacrées au 60e anniversaire de règne de la reine Elisabeth II, le tout accompagné de quelques mots sympathiques.
C'est toujours avec grand plaisir que j'écoute vos émissions. Continuez votre excellent travail.
Philippe Aubre nous a également envoyé son rapport d'écoute régulier, faisant preuve de sa fidélité, auquel il a ajouté un bref commentaire de ce qui faisait l'actualité dans un de récents faits et événements.
Les Vietnamiens, à juste titre et raison, revendiquent le statut de troisième minorité du pays. Je pense que, vu leur présence en République tchèque depuis des lustres, étant donné qu'une bonne frange de cette communauté est née sur votre sol, vous les reconnaissez comme un groupe intégré. Il serait normal, voire impératif, qu'ils bénéficient de ce statut. Cette reconnaissance ne pourra être qu'un plus pour vous. Les mosaïques sont plus agréables que l'uniforme. Lorsque vous nous parliez dans un passé, c'est très récent de l'année du dragon chez vous, je me suis retrouvé à Beijing, Taipei, ou plus près à Fukushima.
Hervé Brian, très fidèle, lui aussi a écouté l'émission que Radio Prague avait diffusée le 23 avril. Il nous a écrit.
Beaucoup d'activités ces deux derniers mois ne m'ont pas permis d'être présent à votre écoute et de vous écrire. Peu de commentaires sur votre actualité qui est comme la nôtre essentiellement politique et marquée par une certaine grogne de bon nombre de personnes.
Notre auditeur français nous signale également avoir remarqué dans nos informations la surprise des médias tchèques suite aux résultats du premier tour de l'élection présidentielle en France et surtout suite à la montée des partis extrémistes, soulignant que la situation retrouve pratiquement dans beaucoup de pays à chaque crise économique. Nous n'avons pas, hélas, de réponse à sa question de savoir comment ont voté les ressortissants français vivant en République tchèque. Mais comme d'ici peu, nous allons connaître le nom du nouveau président de la République française, je voudrais inviter nos auditeurs à nous communiquer leur réaction au résultat de cette élection présidentielle qui est suivie avec grand intérêt, nous vous l'avons déjà dit, aussi en Tchéquie. Maurice Mercier nous fait d'ailleurs savoir qu'il a apprécié notre commentaire sur cette élection. Il ne me reste plus qu'à adresser des salutations très cordiales de l'équipe de Radio Prague à Abdelhamid Znaidi du Maroc, tout comme à Motofumi Kai du Japon et à vous tous qui nous écoutez ou qui nous lisez sur Internet. Et voici encore la question du mois de mai à notre traditionnel concours qui est la suivante.
Il y a 400 ans est mort un célèbre empereur sous le règne duquel Prague est devenue un centre d'art, de science et d'alchimie. Quel était son nom ?
Je rappelle que parmi les bonnes réponses, 6 vainqueurs seront tirés au sort et recevront un prix. Envoyez vos réponses avant le 30 mai à l'adresse suivante cr@radio.cz. Vous trouverez les noms des vainqueurs au précédent concours sur notre site.
Radka Denemarkova est écrivaine, historienne de littérature, scénariste et traductrice, tout cela à la fois. Sa renommée a dépassé depuis longtemps les frontières de la République tchèque et les œuvres de Radka Denemarkova ont été traduites dans pas moins de 15 langues. Vassar Vichter évoque dans sa rubrique littéraire le roman que Radka Denemarkova a publié en 2006, un roman qui l'a propulsé sur l'avant-scène de la littérature tchèque. Il s'agit là d'une reprise d'une émission diffusée en juillet 2009.
Rencontre littéraire, Václav Richter.
En 1945, une jeune fille revient d'un camp de concentration dans son village natal. Elle espère retrouver dans sa maison le repos et la paix, mais elle n'y trouve que la haine mortelle. Elle croit que les horaires de la guerre sont finis, mais ne sait pas encore que, pour elle, la guerre ne sera jamais terminée, car la longue suite de ses peines n'a fait que commencer. Elle ne sait pas encore qu'elle deviendra une bête à chasser. C'est avec cette horrible déception que s'ouvre le roman « L'argent d'Hitler », dans lequel son auteur, Radka Denemarkova, tente de plonger jusque dans les profondeurs inexplorables de l'amertume. Son roman a obtenu en avril 2007 le prix Magnesia Litera. Voici la reprise d'une émission que nous avons consacrée à ce roman à cette occasion. L'héroïne du roman s'appelle Gita Laushmanova. C'est une jeune fille juive de langue allemande qui a beaucoup souffert dans le camp d'extermination, mais n'a pas perdu une certaine force vitale et le courage pour résister. Ses parents sont morts au camp et quand elle revient dans son village, elle apprend que la villa de sa famille ne lui appartient plus. Les voisins de la famille qui se sont appropriés la maison cherchent à tout prix à se débarrasser de cette intruse qui personnifie leur mauvaise conscience. Ils la battent, la séquestrent et finiraient sans doute par la tuer s'il n'y avait pas parmi eux une femme qui ne peut assister à une telle horreur et cherche à sauver la fille. C'est grâce à cette femme que la jeune fille réussira finalement à s'enfuir. C'est grâce à elle qu'elle pourra revenir 50 ans plus tard dans le village pour dire la vérité et réclamer que justice soit faite. De nouveau, elle se heurtera alors à l'hostilité et à l'hypocrisie, mais cette fois, elle sera plus forte et ne se laissera pas faire. Radka Denemarkova évoque les sources et les inspirations qui ont donné naissance à son roman.
Quand j'ai achevé mon premier livre, je voulais écrire l'histoire modèle d'une femme dans le monde des hommes, une histoire sur les problèmes dont nous souffrons dans la société tchèque à l'époque actuelle. Alors je me suis mise à l'écrire. À l'origine, cela devait être l'histoire d'une femme d'un certain âge qui se souvient. C'était en 2003. Et à ce moment-là, j'ai lu dans le magazine Respect un article sur la famille Fishman. Les biens dans la commune de Puklice auxquels les membres de la famille avaient droit ne leur avaient pas été restitués. Je me suis alors demandé pourquoi nous, les Tchèques, faisons de telles choses. J'ai donc décidé de mêler au roman aussi ce genre d'affaires, nos cadavres dans le placard. J'ai emprunté à la réalité quelques données fondamentales. Une jeune fille juive, originaire d'une famille allemande, qui a passé sa jeunesse en Bohême. Tout le reste est bien sûr de la fiction.
En 1945, Gita Laushmanova échappe donc aux voisins qui voulaient la liquider, se réfugie chez une tante à Prague, mais elle n'est pas encore au bout de ses peines. Des rechutes tragiques continueront à dévaster sa vie ultérieure et à ébranler son esprit. Gita, qui recommencera à croire à un bonheur possible, perdra son enfant et son mari dans des circonstances cruelles. Radka Denemarkova fait s'accumuler tant d'épreuves dans la vie de son héroïne que cela en deviendrait intolérable et improbable si elle ne racontait pas avec talent et ne savait pas subjuguer son lecteur. Son style saccadé, son texte qui se décompose en d'innombrables petites séquences comme des éclats de verre composant une mosaïque, sont des instruments d'une rare efficacité.
Je me suis dit que cela ne devrait pas être un petit casse-croûte, mais une arête dans la gorge. Et puis, il y a eu une autre chose qui ne concerne pas la trame de mon livre, et c'est le travail avec la langue. Quand on se dit « je vais essayer l'efficacité de la langue », on doit écrire avec des pincettes et choisir les mots en gardant la tête froide. Ils sont peu nombreux ceux qui se rendent compte qu'il est plus difficile d'écrire de cette façon parce qu'il faut beaucoup réfléchir pour que le texte soit efficace.
Gita Laušmanová ne se lasse pas de rouvrir de vieilles blessures et de chercher la vérité sous des montagnes d'oubli. L'histoire de cette femme, qui refuse finalement d'être dédommagée pour ne pas recevoir ce qu'elle considère toujours comme l'argent d'Hitler, permet à Radka Denemarkova de parler de thèmes qui ne la laissent pas indifférente.
J'écris parce que je réalise ce qui me gêne. Je suis gênée par cette situation où l'on ne parle pas des choses dont on devrait parler. Je pense que toutes les affaires qui n'ont pas été réglées et qui restent dans notre subconscient filtrent dans notre réalité d'aujourd'hui. Je ne veux punir personne. On ne peut pas punir le passé, mais je veux au moins nommer les choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer, mais on peut au moins les nommer.
Radka Denemarkova est née en 1968, donc longtemps après la période cruelle qu'elle décrit au début de son roman. Après des études de langue, elle a travaillé à l'Institut de littérature tchèque, mais aussi comme responsable du programme du théâtre Nasa Bradley à Prague. Elle est l'auteur de monographies et de scénarios de films documentaires sur plusieurs personnalités de la culture tchèque. Traductrice, elle traduit de l'allemand des essais et des pièces de théâtre. Son premier roman est paru en 2005. L'année suivante, elle a récidivé avec l'argent d'Hitler et actuellement, elle écrit son troisième roman qui sera intitulé « Comment se débarrasser des surplus de tendresse ». Elle ne peut pas se plaindre d'un manque d'intérêt du public.
Je dois dire que ce qui m'a surtout surpris, c'est le retentissement suscité par mon livre, qui sortira bientôt en 6 langues, le fait que le livre suscite l'attention des éditeurs et des lecteurs étrangers. C'était aussi le cas de mon premier livre, et je pense donc qu'il y a une énergie et que l'on le sent. J'évoque les rapports entre les hommes. Mon premier livre raconte les rapports parents-enfants. Ici, il s'agit de l'histoire d'une vie. Je ne pense pas que ce succès puisse changer ma vie, parce que je fais toujours ce que je veux et je me suis toujours efforcée de faire autre chose. J'ai fait des traductions, j'ai fait du théâtre. Dans mon travail, je m'intéresse toujours aux gens qui ont quelque chose d'intéressant pour moi. Pourquoi j'écris ? Pour arriver à vivre ma vie.
Voilà, c'est ainsi que s'achève pour aujourd'hui le programme Langue française de Radio Prague. Un programme, qu'a eu le plaisir de vous préparer la rédaction française de Radio Prague. Merci de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute. Ahoy.